Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Je vous invite à prendre vos Bibles afin de lire les textes de la prédication de ce matin. Alors tout d'abord, aujourd'hui, nous poursuivrons dans l'épître de Paul à Philémon, donc qui sera le texte principal. Nous allons lire des versets 8 à 17. Donc Philémon, des versets 8 à 17. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour, tel que je suis, moi, Paul, un vieillard. Et de plus, maintenant, prisonnier pour le Christ Jésus. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il te sera bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui, qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être, en effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et combien plus encore de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Ensuite, le texte, donc on va revenir un petit peu avant, on va aller dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, le verset 9. Éphésiens 6, au verset 9. Quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Ensuite, nous allons dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4, pour lire le premier verset. L'Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 1. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Et puis enfin, pour terminer, nous revenons en arrière dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, des versets 1 à 7. L'Épître aux Galates, au chapitre 4, des versets 1 à 7. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ce qui était sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Et c'est reconnaissant que nous allons entendre la parole de l'Éternel qui va nous être apportée par notre pasteur Timothée ce matin.
Si je n'ai pas la nationalité d'un pays, je peux y vivre. Mais je n'ai pas tous les privilèges et je ne fais pas vraiment partie du pays. Et ma prière aujourd'hui, c'est que l'Esprit Saint agisse en nous de manière à transformer nos vies et appliquer Christ en nous, afin que nous ayons tous la nationalité du royaume céleste, afin de saisir, vivre cette identité que Dieu nous donne en Christ et comprendre sa parole guidée par son esprit. Donc c'est sur lui que nous comptons pour vivre cette identité céleste et que pour ceux qui ne l'ont pas encore, qu'ils puissent la recevoir, c'est ma prière aussi ce matin. Or Dieu, dans sa sagesse et sa providence, a voulu la petite lettre à Philémon dans la révélation de sa parole. C'est une petite lettre. On dirait un SMS aujourd'hui, vous me dites c'est un peu long pour un SMS, mais voilà, pour l'époque c'est quand même très court par rapport aux autres épîtres. On pourrait dire que par rapport aux autres épîtres, c'est comme une carte postale que Paul envoie de Rome à Philémon qui est à Colosse. Paul apprécie beaucoup Philémon. Il apprécie sa famille, l'église qui se trouve dans sa maison. Et en fait, Philémon est un grand sujet d'encouragement pour Paul. Il est un grand sujet d'encouragement pour Paul et il le dit au début de sa lettre. Au début de la lettre de Philémon, il le dit. Et dans sa providence, nous n'avons pas les détails de la rencontre entre Paul et Onésime. On ne sait pas comment ils se sont rencontrés. Onésime est un esclave en fuite, ça nous le savons. Est-ce que Onésime était plein de remords et il cherchait quelqu'un qui connaissait Philémon et qui pouvait l'aider?
Peut-être.
Est-ce que c'est parce qu'Onésime était aussi un moment prisonnier qu'il a fait connaissance de Paul, l'autre prisonnier? Ou est-ce qu'il travaillait auprès des prisonniers pour gagner sa vie? En fait, on pourrait imaginer beaucoup de scénarios. Certains ont même imaginé qu'il était gladiateur du temps de Paul. Il y a un livre d'ailleurs qui a été écrit là-dessus. Nous ne le savons pas. Ce que nous savons, c'est que Onésime était un esclave de Philémon, qu'il a fui son maître, qu'il a rencontré Paul et qu'il s'est converti au Seigneur Jésus-Christ. Ça, nous le savons. Et Paul est témoin de cette transformation. Il en est même bénéficiaire par les services qu'Onésime lui rend maintenant. Celui qui était inutile est devenu utile. Souvenez peut-être que Onésime veut dire utile. C'est un peu un jeu de mots ici. Et Paul décide de renvoyer Onésime chez son maître. Il va le renvoyer de Rome à Colosse. Et en fait, pour faire cela, Paul manifeste une confiance particulière. Il manifeste en fait une confiance envers Onésime. Parce qu'en le renvoyant à Colosse, ben Onésime il pourrait repartir dans la nature en fait. Donc en faisant cela, il montre qu'il a confiance en Onésime qui pourrait profiter de partir ailleurs. Et Paul a aussi confiance en Philémon. Philémon qui pourrait tenter de maltraiter Onésime quand il rentre. Une confiance envers Onésime, une confiance envers Philémon. Et en fait, dans le fond, Paul a confiance dans l'œuvre de l'Évangile. Paul a confiance dans l'œuvre de l'Évangile opérée par l'Esprit dans le cœur d'Onésime et dans le cœur de Philémon. Alors Paul envoie cette petite lettre pour accompagner Onésime qui, avec Tychique, apporte aussi une lettre à l'église de Colosse. La lettre de Philémon, cette petite lettre, est en fait un appel à la réconciliation entre Onésime et Philémon. Et par les trois premières prédications qu'on a déjà vues dans cette série de Philémon, on a déjà pu réfléchir à différents aspects que Paul aborde dans le but que Philémon se réconcilie avec Onésime. Donc Philémon, qui est un chrétien exemplaire, un chrétien qui aime, un chrétien, il le dit, tranquillise même les autres chrétiens, et Onésime, qui est un nouveau converti. Et Paul désire qu'il se réconcilie. Alors aujourd'hui, on va se concentrer particulièrement sur les versets 13 à 17. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder les versets 13 à 17. Et on va parler de trois éléments principaux. La première, c'est la tension de Paul, versets 13 et 14. Ensuite, la condition d'esclave et frère en Christ, versets 15 et 16, et troisièmement, l'accueil par substitution, verset 17. En fait, ces trois sujets vont nous continuer à alimenter notre réflexion par rapport à la réconciliation. La tension de Paul nous permettra de comprendre qu'il faut parfois renoncer à un confort personnel pour permettre une réconciliation volontaire. Deuxièmement, la réconciliation d'un maître avec son esclave engendre un changement relationnel important. On parlera aussi de cette notion d'esclavage d'ailleurs. Et troisièmement, l'accueil par substitution amène à la réconciliation. Donc commençons par les versets 13 et 14 que je vais relire pour qu'on les ait bien en tête. Donc c'est Paul là qui parle à Philémon par écrit. « J'aurais désiré le retenir, donc Onésime, près de moi, pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. » Paul est dans les chaînes. Quelqu'un qui est dans les chaînes, quelqu'un qui est en prison à les enfants, est-ce qu'il a beaucoup de possibilités d'aller faire des petites balades, de se promener? Non, il est limité. Il est limité dans ce qu'il peut faire. Il est limité même dans les aspects pratiques de la vie. Est-ce qu'il peut aller prêcher une fois dans une autre ville et puis revenir? Non, il est prisonnier. Est-ce qu'il peut aller apporter de l'aide à des personnes qui en ont besoin? Non. Et avoir quelqu'un à ses côtés qui pouvait l'aider pour, je sais pas, faire la lessive par exemple, ou la nourriture, ou acheter des papyrus et des plumes et de l'encre, parce que c'est comme ça qu'ils écrivaient à l'époque, ils n'avaient pas le petit téléphone, ils faisaient comme ça. Mais avoir quelqu'un qui pouvait faire ça était précieux pour Paul. Une personne qui peut même aller transmettre des messages à d'autres personnes ou aider des personnes qui sont dans le besoin, dans l'entourage, à la place de Paul, ou même les guider vers Christ. En fait, tout cela, Onésime pouvait le faire pour Paul. En plus d'une présence, Onésime était vers Paul, et je pense qu'Onésime avait soif d'apprendre. Et quand vous connaissez quelque chose et que vous avez quelqu'un qui a soif d'apprendre à côté, c'est juste génial. Il vous stimule, il vous motive. Donc Paul disait qu'il voulait garder Onésime auprès de lui, c'est ce qu'il aurait voulu en fait. Ça indique d'une part ses besoins, mais aussi l'intérêt de cette lettre était aussi de faire comprendre à Philémon que Onésime avait vraiment changé. Il était vraiment utile. C'est pas juste quelque chose que Paul disait, c'est quelque chose qu'il vivait. Voilà pourquoi il aurait voulu le garder quelque part. Paul est reconnaissant pour l'aide reçue d'Onésime. Il est reconnaissant pour l'aide reçue d'Onésime. Mais il est prêt à renoncer à son confort pour que la réconciliation entre Philémon et Onésime puisse avoir lieu. Si Onésime ne rentre pas, il ne pourrait pas y avoir de réconciliation. Donc Paul est prêt à renoncer à son confort pour la réconciliation entre Philémon et Onésime. Et deuxièmement, bien que Paul veut vraiment que Onésime agisse d'une manière qui permette la réconciliation, il ne veut rien faire sans son avis, puisqu'en fait ça le concerne dans cette affaire. Paul veut mettre Philémon face à ses responsabilités et l'incite à agir par amour, on l'a vu la dernière fois. D'ailleurs, un peu comme il l'a enseigné aux Corinthiens en lien avec les dons, quand il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu nous pousse à vivre toute notre vie de foi, en fait, de cette manière, non par contrainte. Je dois vivre la foi parce que Dieu veut. Non, non par contrainte, mais volontairement. Oui, je veux. C'est quelque chose qui fait partie de moi, j'ai reçu cet amour de Dieu, je veux le vivre, mais volontairement, ce qui sera aussi un encouragement pour nous. Celui qui a une nouvelle nature, même s'il fait des efforts et qu'il utilise toutes les capacités qui lui sont données, ne vit pas sous la contrainte. Imagine, alors là il vous faut beaucoup d'imagination, mais les enfants ils ont beaucoup, ça va bien aller. Imaginez que je suis changé en poisson, je deviens un poisson. Voilà, c'est ça. Est-ce que pour moi, ça serait une contrainte d'aller vivre dans l'eau? Ça serait difficile pour moi si j'étais un poisson là, pouf, d'aller vivre dans l'eau? Bien sûr, je devrais nager, je devrais chercher ma nourriture, capter l'oxygène par mes branchies. Enfin, je ne sais pas comment ils font, mais voilà. Mais c'est pas une contrainte, c'est pas difficile, je suis pas obligé d'aller dans l'eau. Ça serait mon lieu où je me sentirais bien. Si je dis que je suis un poisson, est-ce que je suis dans l'eau parce qu'on me force à y aller? Mais si je dis que je suis changé en poisson, puis on me dit « Ouais, mais on me force à aller dans l'eau », est-ce que vraiment j'ai été changé en poisson? De même, ce n'est pas une contrainte pour un chrétien né de nouveau de vivre sa foi selon le royaume de Dieu, selon l'Évangile. Notre nouveau contexte de vie, en fait, nous plonge dans l'Évangile. La conversion nous plonge dans l'Évangile. On aime vivre l'Évangile. Bien sûr, il faudra continuer à apprendre à se repentir, à croire en Christ, à se nourrir de l'amour de Christ, à capter l'oxygène de mon âme par la prière. C'est pas tout facile, comme un poisson, c'est pas tout facile. Mais ce n'est pas une contrainte de vivre selon l'Évangile, c'est plutôt une joie, une grande liberté pour celui qui est en Christ. Et Paul ne veut pas que Philémon soit forcé de vivre la réconciliation avec Onésime. Paul est même prêt à renoncer à de l'aide pour que la réconciliation soit possible. Or, pour continuer à aider Philémon, Paul va toucher deux sujets que nous allons voir dans notre prochain point, dans les versets suivants. Deux sujets importants. J'ai intitulé le deuxième point « La condition d'esclave et de frère en Christ ». Alors, lisons le verset 15. « Peut-être, en effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité ? Non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et combien plus encore de toi, selon la chair et selon le Seigneur. » Paul veut aider Philémon à comprendre que Dieu conduit toutes choses, même la fuite d'Onésime. C'est encore Dieu qui était maître de tout ça. Moi, j'aime bien ici un commentaire de Calvin à ce propos, je vous le livre, qui dit ceci. Alors, ce n'est pas un français habituel. Hein. Donc, comme ça vous permet déjà d'entrer dans cette compréhension. Hein. Donc, de la même fontaine nous sort une doctrine bien utile, à savoir que les élus de Dieu, quelquefois d'une façon incroyable, contre le sens commun, sont amenés à salut par des circuits entortillés et même par des labyrinthes. Onésime habitait une maison sainte et craignant Dieu. Quand par ses méfaits, il se bannit d'elle. Il se retire loin de Dieu et de la vie éternelle, comme de propos délibérés. Mais Dieu, par sa providence secrète et cachée, conduit miraculeusement sa fuite pernicieuse en sorte qu'il tombe entre les mains de Paul. Fin de citation. Mais on connaît d'autres histoires. On connaît aussi l'histoire de Joseph qui avait dit à ses frères que Dieu transforme en bien le mal qu'il lui avait fait. Hein, si je vous lis le verset 20 du chapitre 50 qui dit, c'est Joseph qui parle à ses frères, qui dit « Vous aviez formé le projet de me faire du mal. » Il est mis dans une citerne, il l'avait vendu, hein, vous connaissez un peu l'histoire. Je continue ce qu'il dit. « Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Et Paul ici suggère que Dieu était aussi au contrôle dans la fuite d'Onésime. Cette fuite d'Onésime qui a fait du mal à Philémon, tout comme les frères de Joseph avaient fait du mal à Joseph, mais n'étaient pas en dehors du contrôle divin. Paul suggère que Dieu était aussi au contrôle de la fuite d'Onésime qui a fait du mal à Philémon, tout comme les frères de Joseph, lorsqu'ils faisaient du mal à Joseph, n'étaient pas en dehors du contrôle divin. En fait, Onésime, par sa fuite, qui est une faute, mais par cette faute, Dieu l'a utilisée pour l'amener vers Paul et l'amener au salut en Jésus-Christ. Paul cherche à faire comprendre que le changement de vie d'Onésime a rendu un homme fuyant en un homme attaché. C'est la caractéristique d'un croyant avec les autres croyants. Paul indique d'ailleurs qu'Onésime ne lui sera pas premièrement attaché parce qu'il est son esclave à Philémon quand il revient, mais plutôt parce qu'il est son frère bien-aimé. Quel impact a sur nous le fait de savoir que quelqu'un est un frère ou une sœur bien-aimée dans le Seigneur? Quel est l'impact sur nous? Est-ce qu'on peut d'ailleurs dire de chaque membre de l'Église où nous sommes « Tu es un frère, tu es une sœur bien-aimée. » Pour moi. Être frère et sœur en Christ change notre attachement, notre relation, notre engagement pour le bien de l'autre, jusqu'à donner sa vie. Puisque c'est ce que Jésus a fait et qu'il nous demande d'avoir ce même amour sacrificiel envers nos frères et sœurs dans la foi. Si notre attachement change, l'attachement d'Onésime envers Philémon et Philémon envers Onésime est impacté par l'Évangile. Et leur rôle respectif, par contre, ne change pas. Onésime est l'esclave de Philémon et Philémon est le maître d'Onésime. Il est intéressant de noter que Paul ne dit pas à Philémon qu'il doit affranchir Onésime. Ce n'est pas ça dans le texte. Mais de le traiter comme un frère dans sa condition d'esclave. Il n'y a pas de jugement de valeur en ce qui concerne l'esclavage ici. Ce qui dérange d'ailleurs plus d'un qui souhaiterait que la Bible soit explicite et condamne l'esclavage explicitement. Mais si la Bible ne condamne pas explicitement l'esclavage, elle est claire sur différents sujets qui permettent d'écarter une grande partie des formes d'esclavage qui existent et qui ont existé. Donc si la Bible ne condamne pas explicitement l'esclavage, elle est claire sur différents sujets qui permettent d'écarter une grande partie des formes d'esclavage qui existent et qui ont existé. En voici quelques éléments. J'aimerais quand même donner quelques éléments de fond qui est là. Il y a un élément très fort qu'on trouve dans le Deutéronome et dans Exode, je vous lirai les textes, où il est dit que « enlever de force ou par ruse une personne pour la vendre est condamné dans la Bible ». C'est condamné. Enlever une personne de force ou par ruse et la vendre est condamné. Deutéronome 24:7 le parle dans le contexte du peuple d'Israël où il est dit « si l'on trouve un homme qui ait dérobé une personne, en personne l'un de ses frères parmi les Israélites, qui l'a réduit en esclavage ou qui l'a vendu, ce voleur sera puni de mort. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. » Ou encore dans Exode qui généralise à toute personne « celui qui dérobera, donc volera un homme et qui l'aura vendu, ou retenu entre ses mains, sera puni de mort. » Et 1 Timothée 1:10 met les trafiquants d'esclaves ou voleurs d'hommes au même niveau que les meurtriers. Donc ça, c'est des éléments bibliques. Donc ça enlève déjà une grande partie de l'esclavage. Ça le condamne quelque part. L'être humain appartient à Dieu et vouloir être le propriétaire d'un autre être humain, c'est dans un sens se mettre à la place de Dieu. Dans Genèse 9, 6 et 7, il est dit que l'on ne peut pas toucher à la vie d'un homme sans conséquence, car Dieu a fait l'homme à son image. Il est intéressant de noter que c'est dans ce même chapitre 9 de Genèse que pour la première fois il est parlé d'esclavage dans la Bible. Et en fait, c'est dans un contexte de malédiction. C'est la malédiction de Canaan au temps de Noé. Troisième élément, l'amour envers le prochain est là dès l'Ancien Testament. Quand Jésus dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, vous vous rappelez que Jésus a dit ça, en fait, il cite un texte de Lévitique 19-18. Et en fait, l'esclave, c'est un prochain. Un élément supplémentaire, dans toutes les paraboles où Jésus parle de maître et de serviteur, parce que Jésus parle de maître et de serviteur dans des paraboles, il n'y a aucune incitation ou autorisation à maltraiter des esclaves injustement. La justice est exercée, mais il n'y a pas de tyrannie ou d'action égoïste. Et de plus, les textes de l'Ancien Testament qui parlent de la manière dont les maîtres doivent agir avec leurs esclaves montrent déjà une certaine protection. Quand on regarde dans Exode 21 ou dans Deutéronome 15, on a déjà une certaine protection qui est donnée. Et dans le Nouveau Testament, le respect et la centralité de plaire à Dieu, qui est le maître de tous, fait que souvent, actuellement, les attitudes maître-esclave décrites dans le Nouveau Testament sont vues d'ailleurs comme la manière de vivre le rôle de patron et d'ouvrier. Souvent, on prend ces textes pour dire, ben voilà comment on peut vivre entre un patron et un ouvrier, parce qu'en fait, ça reflète des éléments que nous sommes appelés à vivre dans ces relations-là. Relisons les textes dans Éphésiens 6. Donc, vous pouvez avoir un petit doigt dans Philémon et revenir dans Éphésiens. Éphésiens 6, alors là, je vais relire avec la partie qui concerne les serviteurs, donc de 5 à 9, comme ça on a le contexte. Les serviteurs, donc serviteurs, bon, en grec c'est doulos, donc ça pourrait dire esclave, ici, Éphésiens 6, 5. Obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maître, agissez de même à l'égard de vos serviteurs, donc le de même, vous pouvez revenir après ce qui était avant, hein. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Ici, on va voir dans l'épître aux Colossiens, puisque Philémon entend cette lettre aussi, puisque c'est là qu'il est, dans Colossiens au chapitre 3, là on va lire depuis le verset 22 maintenant, où il est dit « Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres, selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice, et il n'y a pas de considération de personne. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître qui est dans le ciel. » Voilà des textes qui sont quand même assez clairs de la manière de respecter et d'agir de manière à plaire à Dieu dans ses relations. Vous savez que le symbole de la rédemption, quel est le symbole de la rédemption dans l'Ancien Testament ? Le symbole du salut dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce que c'est ? C'est vrai que le sang, c'est un symbole, c'est juste. Et il a été mis en valeur dans une situation particulière qui est lors de la sortie d'Égypte. C'est juste, le sang est présent. La sortie d'Égypte, c'est la libération de l'esclavage. Donc le symbole de rédemption du salut dans l'Ancien Testament, c'est la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte, c'est la libération de l'esclavage. Donc je continue à vous donner des éléments qu'on trouve dans la Bible. Ceux qui disent que la Bible est pour l'esclavage, ben je suis en train de vous dire qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui commencent à nous permettre de comprendre que, attendez, alors dans ce contexte-là, bon, je continue. L'esclavage n'est pas une manière de vivre selon Dieu avant la chute, tout comme le divorce d'ailleurs, ne l'est pas non plus. Ce sont des conséquences du péché et Dieu donne des lois pour les deux afin de limiter les dégâts du péché. Que ce soit pour le divorce ou pour l'esclavage. Il y a un élément supplémentaire, et c'est un élément qui maintenant va aller dans les profondeurs, alors préparez-vous à mettre vos scaphandriers, spirituels évidemment. Jésus a indiqué aux pharisiens que celui qui pêche est un esclave du péché. Celui qui pêche est un esclave du péché. Ça c'est Jean 8, 34 qui le dit. Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Donc si je demandais ici, qui est esclave ? Ben, dans cette notion-là, qui pêche ? On pourrait tous lever la main. Et Jésus est venu pour nous rendre libres du péché et nous remettre sous l'autorité de Dieu qui ne nous veut que du bien. Paul le dit ainsi dans Romains 6, 22, il dit « Mais maintenant, libéré du péché et esclave de Dieu. » Lui, il fait le lien après avec « esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. » En fait, ce maître, Dieu, bon, change de maître, il ne nous veut que du bien. C'est la sainteté et la vie éternelle. Donc je m'arrête ici pour quelques éléments que la Bible nous enseigne et qui nous permet de comprendre que s'il n'y a pas de verset qui condamne explicitement l'esclavage, la Bible ne fait aucunement la promotion de l'esclavage et qui est vue comme une malédiction et que plusieurs types d'esclavage sont condamnés par la manière même d'agir des maîtres. Philémon, qui connaît l'Ancien Testament, qui connaît certainement les Évangiles et qui a entendu la lettre aux Colossiens, est au courant de tout cela en fait. Donc son attitude en tant que maître envers Onésime devait donc déjà être correcte avant même que Onésime s'enfuit. « Mais Paul souligne dans sa lettre que Onésime est maintenant mieux qu'un esclave, ou peut-être mieux traduit, plus qu'un esclave. Il est un frère bien-aimé pour Philémon, maintenant qu'il revient. Si Philémon devait déjà aimer Onésime comme lui-même étant son prochain, ça c'était déjà avant, à partir de maintenant, il devait aimer Onésime comme Jésus l'a aimé. Et c'est la différence, en fait, d'amour que nous avons pour tous les hommes, qui est selon la chair. D'ailleurs, Paul prendra ces deux expressions, selon la chair et selon le Seigneur, dans le texte ici, au verset 16. C'est la différence d'amour que nous avons pour tous les hommes, qui est un amour selon la chair et qui est fait de respect et de soin. Et l'amour envers les frères et sœurs en Christ, qui est un amour selon le Seigneur, qui est fait d'affection et de sacrifice de soi. Ça, c'est la différence. Et est-ce que Paul demande à Philémon d'affranchir Onésime afin qu'il ne soit plus esclave dans ce texte ? Eh bien, ce n'est pas explicite. Philémon peut continuer à garder Onésime comme employé, comme faisant partie de sa maisonnée. Mais Paul, en lui disant ensuite de l'accueillir comme lui-même, comme si Philémon accueillait Paul, hein, qui n'est pas esclave, incite Philémon à y réfléchir sérieusement et à saisir que l'on ne peut pas être propriétaire de la vie d'un autre. Mais Paul, en fait, veut que ça soit le cœur et l'amour de Philémon qui soient le moteur de toute cette action. Quelle joie ici donc de comprendre que même si nous avons été esclaves du péché, Jésus demande au Père de nous recevoir comme ses frères bien-aimés. Et nous allons voir la prochaine fois d'ailleurs qu'il y a eu un paiement pour libérer de la servitude, pour racheter de la liberté. Mais aujourd'hui, saisissons déjà que celui qui vient à Jésus-Christ, Jésus dit à son Père, et je paraphrase ce que Paul dit à Philémon à propos du croyant, c'est comme si Jésus disait à son Père, il, vous pouvez mettre votre nom, hein, il a été séparé pour un peu de temps de toi par son péché. Mais tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme mon frère bien-aimé. Et si tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. C'est Jésus qui dit ça au Père, quelque part. Et nous allons justement parler de cela dans la dernière partie de cette phrase qu'on voit ici, au verset 17. Cet accueil par substitution. Où il est dit, alors je dois retourner dans Philémon, j'étais encore dans Colossiens, verset 17, « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. » Onésime va arriver chez Philémon comme un homme légalement condamné. Philémon est un homme légalement condamné. Il est parti de chez son maître, et si Philémon l'amène devant la justice, le juge condamnera Philémon et décidera ce qui sera fait selon ce que Philémon voudra, puisque c'est lui qui en a la responsabilité. Onésime arrive chez Philémon en tant qu'homme légalement condamné. Mais Paul demande à Philémon de recevoir Onésime comme lui-même. Nous pouvons dire que Paul dit à Philémon, quand tu le verras, quand tu vois Onésime arriver, eh bien, vois mon cœur, le cœur de Paul. Car Onésime est maintenant mon frère bien-aimé. Vous savez, au début de la lettre, Paul avait appelé Philémon mon bien-aimé. Franchement, quand Philémon a lu la lettre de Paul, hein, Paul qui est un apôtre, qui est connu, qui aime Philémon, etc., et il l'appelle bien-aimé. Mais Philémon, ça a dû toucher son cœur et dire « Waouh, je suis le bien-aimé de Paul. » Et Paul est mon bien-aimé, hein, dans la foi. Quel honneur! Et voilà que ce même apôtre appelle Onésime, cette crapule qui est partie de chez moi, hein, pour Philémon, et il l'appelle mon bien-aimé. Et Philémon devrait le voir comme un frère bien-aimé. Pour Philémon, ça n'a pas dû être facile. Parce qu'on a déjà vu, hein, il y a tout un passif qui est là. Mais cet amour de Paul pour Onésime a dû beaucoup aider Philémon. Si Paul peut aimer Onésime, je pourrais aussi le faire. Souvenons-nous que celui qui se tourne vers Christ, se repent de ses péchés et croit en Jésus, et se fait baptiser, est un bien-aimé de Jésus. S'il est un bien-aimé de Jésus et que nous aimons aussi Jésus, pourquoi ne serait-il pas aussi un bien-aimé pour nous? Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit dans Jean 13, 34 et 35, que j'aime souvent citer, parce que c'est son commandement qu'il nous a donné. Hein, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ainsi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et l'élément nouveau, on avait déjà vu ça quand on avait prêché sur Jean, c'est cette notion de « comme je vous ai aimé ». Parce qu'aime ton prochain comme toi-même, ça c'était déjà présent, c'était déjà clair pour tout le monde. C'est « comme je vous ai aimé ». Paul, en incitant Philémon à accueillir Onésime comme s'il l'accueillait lui, nous pousse à penser à Christ et à accueillir notre frère en Christ comme si nous recevions Christ lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous aider dans les situations qui sont plus difficiles. Jésus-Christ est mort pour Onésime. Pourquoi Philémon ne l'accueillerait-il pas alors que Jésus le fait et Paul également? Avoir cette attitude d'accueillir l'autre comme Jésus est un élément qui va nous aider. Mais ce que Paul demande ici me fait penser à quelque chose de plus grand encore et qui m'émerveille. En fait, c'est Jésus lui-même, je l'ai déjà suggéré avant, c'est Jésus lui-même qui se présente devant son Père et qui lui dit de m'accueillir comme si c'était lui. Jésus a pris ma place sur la croix afin que je puisse en quelque sorte prendre sa place devant le Père et recevoir son amour, sa grâce, l'accueil d'un fils. Jésus, aimé de Dieu d'une affection et d'une profondeur inégalée. Est-ce que le Père aime le Fils? Franchement, est-ce que le Père dans la Trinité aime le Fils? Alors, si vous avez une idée de quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre d'une façon extrêmement forte, c'est beaucoup plus encore. C'est un amour extrêmement profond. C'est un amour qui est inégalé. Et il dit, quand tu vois Onésime, puisqu'il est devenu enfant de Dieu, vois mon cœur et par amour pour moi, le médiateur, reçois-le. C'est ce que Jésus dit au Père, en fait. Et il le dit pour chacun qui vient à Christ. Vous pouvez mettre votre nom. Jésus est aimé de Dieu d'une affection, d'une profondeur inégalée, dit à son Père, quand il voit, allez, Nuno, il dit, quand tu vois Nuno, Père, vois mon cœur, et par amour pour moi, le médiateur, reçois-le. Par amour, vous voyez l'amour pour Christ? Entre Père et Christ, il est extra, il dit, cet amour-là, accueille-le avec cet amour-là. Dieu nous accueille sur la base de son amour pour Jésus-Christ. C'est très important de comprendre ça. Dieu nous accueille sur la base de son amour pour Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne nous aime pas nous personnellement. Mais cet amour pour Christ est beaucoup plus profond. Et c'est par cet amour-là qu'il nous accepte. Dieu nous accueille sur la base de son amour pour Jésus-Christ. De quelle manière et combien le Père aime-t-il Jésus? Énormément, on l'a vu. C'est cet amour-là qui l'anime lorsqu'il nous accueille. C'est ce que j'appelle l'accueil par substitution, si vous voulez. Dieu nous accueille comme s'il accueille Jésus-Christ. C'est très important à comprendre. Parce que des fois, vous dites, ah, mais j'ai tellement fait... Ça va pas, j'ai tellement mal fait. Il peut pas m'aimer. L'accueil de Dieu ne dépend pas de vous, de nous, de moi. Il dépend de l'amour pour Christ. Vous saisissez? C'est quelque chose d'extrêmement profond ici. Paul disait à Philémon, « Si tu me tiens pour ami, reçois-le comme moi-même. » C'est ce qu'il dit au verset 17. Il dit à Philémon, « Si tu me tiens pour ami, reçois-le comme moi-même. » On pourrait dire, Jésus dit à son Père, pour ceux qui sont à lui, Jésus dit à son Père, « Si tu me tiens pour ton bien-aimé, reçois-les comme moi-même. » C'est notre assurance de l'amour de Dieu qui nous est manifestée lorsque nous nous tournons vers lui par Christ. C'est notre assurance. Alors, c'est vrai que pour une illustration, je réfléchissais si des gens vivaient ça, puis je me disais, mais c'est vrai que les catholiques romains aiment ce contexte de l'amour par substitution. Mais malheureusement, ils utilisent un contexte que la Bible n'enseigne pas. En fait, ils disent que Jésus aime sa mère Marie. Bon, on est d'accord, hein. Mais ils disent qu'il l'aime tellement qu'il ne peut rien lui refuser. Voilà pourquoi les catholiques s'adressent à Marie pour que par elle, l'amour que Jésus porte à Marie, ils répondent favorablement à leur requête. C'est l'amour par substitution, là. Ils ont compris l'accueil par substitution, en fait. Ils disent, en fait, à Jésus, « Accueille-moi comme si j'étais Marie. » Alors que la parole de Dieu nous indique que le seul chemin du salut, et Jésus le dit dans Jean 14,6, c'est « Je suis Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. » En fait, c'est au Père qu'il faut s'adresser et qui nous accueille comme si nous étions Jésus. Ou mieux dit, qui nous accueille parce que nous sommes cachés en Jésus. Ou encore, comme Paul le dit souvent, parce que nous sommes en Christ. C'est ainsi que nous sommes accueillis auprès de lui. Jésus, notre avocat, dit à son Père, « Si tu me tiens pour ami, accueille-le comme moi-même. » Ainsi, en Christ, nous ne sommes plus esclaves, mais fils, comme le dit le texte de Galates 1 à 7, qu'on a entendu avant la prédication. Donc, je ne vais pas maintenant le développer. Mais c'est un élément très fort. En Christ, nous ne sommes plus esclaves, mais fils, comme le dit Galates 4:1-7. Quelle glorieuse vérité nous avons vue ce matin qui nous rassure, en fait, qui nous stimule. L'Évangile, en fait, est la base de toutes nos actions. Et Paul le prouve ici, une fois de plus, en s'appuyant sur tous les concepts du salut pour inciter Philémon à se réconcilier avec Onésime. En fait, Paul prend tous les éléments de l'Évangile qu'il arrive à amener à Philémon pour dire « Réconciliez-vous. Voilà un élément, voilà un élément, voilà un élément. Tout vient de l'Évangile, en fait. Réconciliez-vous. » L'Évangile est la base de toutes nos actions et Paul le prouve ici, une fois de plus, en s'appuyant sur tous les concepts du salut pour inciter Philémon à se réconcilier avec Onésime. Donc, se réfléchir un petit peu à ce qu'on a vu aujourd'hui, Paul renonce à un bienfait, le service d'Onésime, afin qu'il puisse y avoir réconciliation. C'est l'amour pour Philémon et Onésime qui est plus grand que son confort personnel, qui incite Paul à renvoyer Onésime chez Philémon. Puis Philémon, il est appelé à prendre ses responsabilités en tant que chrétien aimant. Ensuite, le Saint-Esprit par Paul aide Philémon à comprendre que malgré le péché d'Onésime, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit pour le salut d'Onésime, comme les frères de Joseph, pour qu'ils soient à nouveau réunis. Ensuite, Paul souligne le changement de relation entre Philémon et Onésime. Philémon ne doit plus seulement aimer son prochain, donc Philémon a Onésime comme prochain, donc il doit l'aimer comme lui-même, hein. Donc il ne doit plus seulement l'aimer comme son prochain, mais maintenant également comme son frère dans la foi, avec un amour sacrificiel qui dépasse l'amour de soi. Et pour terminer, nous avons pu comprendre que comme Philémon devait se remplir de l'amour pour Paul pour aimer Onésime, nous avons à nous remplir de l'amour de Jésus pour aimer les autres, nous rappelant que nous sommes aimés de Dieu parce qu'il reçoit, il nous reçoit, Dieu nous reçoit sur la recommandation de Jésus-Christ. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cette vérité fondamentale qui, pour ma part, me remplit de reconnaissance, de joie, de paix et d'assurance. C'est parce que tu aimes ton Fils Jésus-Christ qui s'est donné pour moi et qui me recommande à toi que tu m'accueilles avec un amour que j'arrive même pas à imaginer et que je ne mérite pas. Pas du tout. Mais Seigneur, cet amour, tu me le donnes. Parce que Christ te le demande. J'aimerais te louer, t'adorer pour cela. J'aimerais te prier que cette vérité puisse pénétrer nos âmes au plus profond de nous-mêmes. Ton amour pour nous dépend de ton amour pour Christ, qui est parfait, qui est stable, qui est d'une profondeur inimaginable, qui est complet. Nous te prions, Seigneur, de nous donner cette grâce de le saisir, d'en être saisi de telle manière à ce que nous puissions ensuite aussi aimer ceux qui sont autour de nous. Et premièrement déjà tous les frères et sœurs en Christ, parce qu'ils sont recommandés par Christ lui-même. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres comme Christ nous aime. Ça semble impossible, Seigneur. Mais c'est toi qui donnes les forces, c'est toi qui donnes la grâce. Et je sais que tu le fais. Sois loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.